l'émission dégenrée, l'émission pour déranger.
De 18h30 à 20h, les 2e et 4e mercredis du mois, sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Bonsoir, bienvenue pour l'émission Dérangée, donc l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97 FM. C'est les 2e et 4e mercredis de chaque mois de 18h30 à 20h et il y a une rediffusion le lundi qui suit à 19h. Ce soir, donc nous sommes le 8 mars et nous, c'est pas du tout parce que c'est le 8 mars qu'on fait une émission féministe, on la fait toute l'année, donc tous les mois de l'année, tous les 15 jours et voilà, ça tombe aujourd'hui. Alors on va un peu en parler quand même, parce que du coup les autres gens ils en parlent, même si je crois nous, bon bref on en parlera plus tard. Mais tout de suite du coup on va écouter un morceau de musique si c'est possible. Nous allons écouter un morceau des Mafia, qui est un groupe de hip-hop
de Strasbourg et le morceau s'appelle Peuple Femme.
À quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin de toute forme de discrimination femme. C'est pour Nana Beur, act up, chaîne de garde, l'oxyde et Mofia, MLM, pour une nouvelle ère.
Oh yeah, yeah, peuple femme, brave aux armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oh yeah, yeah, peuple femme, brave aux armes, sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes.
Et après le mouvement de libération des femmes, PNL, MLF 2000 en force unie pour un nouveau combat, un nouveau discours, un nouveau débat. Ah, comme des forcenés, à quand on force les portes, on est prêt à négocier la parité à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, la mixité, l'égalité des salaires. Les lois changent, mais les mentalités stagnent. Convaincus, je revendique des principes plus terre à terre que des histoires de cul. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos. Un coup de chapeau, merci encore pour ces guerrières de France. Mais c'est pas fini pour ces filles, 20 ans, jeunes et jolies, issues d'immigration et des quartiers populaires. Pour elles, je continue, je m'avance avec celles qui veulent. Je me bats pour une nouvelle ère. Me fier, tout unir pour le même combat.
Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes.
MLF, nouvelle ère,
armée, plus sereine, moins virulente, calme, plus apaisée, posée. Cherche l'harmonie et l'équilibre entre l'homme et la femme. Dis-moi toi, tu trouves ça normal que chaque année 60 à 200 femmes meurent de violence conjugale. Et dis-moi toi, comment tu réagis si je te dis que les Afghanes sont privés de tous les droits et risquent de fouet, si elles n'obéissent pas à leur mari. Et en effet, les chiffres prouvent, les faits sont réels. Et si on dit rien, on fait rien, on assiste à une merde universelle. Je veux pas être complice d'homicide, d'hécatombe de supplice envers les femmes, au nom des miennes, au nom de celles qui souffrent en silence. Me fier, pas en avant vers une nouvelle. clair, me fier. Prends la relève, une mesure, les droits de la femme sont bafoués. On trouve encore des femmes excisées, exilées pour des mariages forcés. Dans certaines familles d'Afrique, on voit aussi des femmes abusées, violées, assassinées. Dans le monde, les droits de la femme au Pakistan sont inexistants. C'est consternant de voir ces femmes se faire réfugier pour le simple fait d'avoir mis au monde une petite fille fidèle à la tradition.
Oye, oye, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table.
Alors vous êtes bien sur Dégenrés, donc on vient d'écouter un morceau des Meufia, et pour cette émission, eh ben, on a un peu choisi des morceaux des fois classiques de Dégenrés, si vous nous écoutez souvent, que vous aurez peut-être entendu dans d'autres émissions, mais où en gros on a sélectionné plus toujours des morceaux de femmes, de Gwyn, de féministes, mais... avec des paroles plus en lien avec les luttes, des revendications en général. Voilà. Et du coup, juste avant, on disait, et oui, on est le 8 mars.
C'est la journée de la femme.
Mais qui est-elle? Nous ne l'avons encore jamais rencontrée.
Si, on l'a vue sur les publicités. Elle est mince, belle, riche.
Blanche.
Et elle consomme beaucoup.
Elle a des enfants. Non, en fait, juste pour dire qu'il y a plusieurs choses qui nous énervent avec cette journée. Alors déjà, le concept d'une journée pour les droits ou les revendications des femmes. Alors c'est super, on a droit à une journée par an. Hein.
Mais de toute façon, c'est la mode. Hein. Il y a la journée pour le sida, la journée pour... les mamans, la journée pour les grands-mamans.
Le Téléthon, enfin voilà.
Bon, c'est une journée
et du coup, en général, eh ben, ça permet... ce concept de ces journées, je trouve, c'est quand même souvent ce truc de la bonne conscience. Alors, pendant une journée, par exemple, on va donner des sous... par exemple, pour le sida, alors qu'on s'en fout, on n'y pense pas le reste de l'année. Enfin, je veux dire, ça marche quand même comme ça, un truc de bonne conscience, et entre autres pour les politiciens. Donc c'est un peu des trucs qu'on va aborder tout au long de cette émission, sur comment ça peut servir. Alors là, aujourd'hui, tous les politiques qui en ont rien à foutre...
jouent les pro-féministes.
C'est ça. Et ils vont, les pro-féministes ou disent des trucs qui sont,
des énormités
sexistes. Parce que aussi c'est ça, c'est qu'on croirait comme ça, lui Mars, que à la limite peut-être on va entendre des discours féministes, mais pas du tout. Enfin, ok, quoi. Il y a quelques trucs, je pense qu'ils peuvent paraître dans les médias, que ce soit papier, journaux, télé, qui peuvent être de teneur féministe de base. Mais on entend aussi, encore presque plus ce jour-là, des conneries sexistes.
On en parlera un peu tout à l'heure avec une revue de presse de quelques quotidiens qui sont parus aujourd'hui.
Voilà. Et...
on va aussi faire une chronique littéraire, même deux. Tiens, oui, on a deux livres dont on avait envie de vous parler aujourd'hui. On va un peu faire des infos parce que c'est vrai que quand même, cette semaine, le fait qu'il y ait le 8 mars, ça impulse quand même des actions, des événements qui sont intéressants et qui concernent les luttes de femmes ou plus large de lesbiennes, de Gwyn, de queer.
Oui, c'est
aussi,
ça, parce que même si on se contente pas d'un jour, et c'est aussi quand même l'occasion de se réapproprier la rue, l'espace public, donc on parlera de certaines initiatives. Et voilà, et donc pour commencer, on voulait revenir un peu sur ce 8 mars, d'où sort-il?
Quelle est donc son histoire?
Et voilà, alors, normalement, ce qu'on devrait dire, c'est que le 8 mars est la journée internationale des luttes des femmes. Alors, ce qu'on entend quand même le plus souvent, c'est au mieux que c'est la journée des femmes. Mais quand même, le plus courant et le pire, c'est la journée de la femme. Alors ça, je pense, on y a droit à fond. C'est très très rare qu'il y ait mentionné journée de lutte des femmes, ce qui est quand même pas du tout pareil, quoi. Parce qu'à un moment, c'est clair, ça s'ancre clairement dans un truc féministe. Ou alors, journée de la femme, c'est l'angoisse, ça veut rien dire, quoi. Et ça veut bien dire ce truc hyper naturalisant de « il y a des femmes, il y a des hommes, ils sont différents ». Et donc on s'est demandé, d'où ça vient cette date? Donc, On a été chercher dans un livre qui est Histoire du féminisme de Michel Rio-Sarcey et qui reprend un peu donc l'historique. Donc je vais vous lire ce qu'elle écrit. Alors, Journée internationale des femmes. Il est intéressant de suivre l'évolution de cette commémoration. En 1910, à l'initiative de Clara Zetkin, révolutionnaire allemande, responsable du travail parmi les femmes au sein de la social-démocratie, le Congrès international des femmes socialistes décide d'organiser chaque année une journée internationale des femmes. Il reprend l'idée aux socialistes américaines qui, en 1909, avaient choisi de rassembler les protestataires chaque dernier dimanche de février pour réclamer l'égalité des droits civiques. Premier détournement ou première oblitération. En réalité, l'historienne canadienne Renée Coty a retrouvé la trace d'un Women's Day à Chicago le 3 mai 1908 en solidarité avec des ouvrières grévistes de Lyon. Deux ans plus tard, les chemisières de New York, en grève de novembre 1909 à février 1910, apportent leur soutien à la manifestation du Women's Day du 27 février 1910. Le 8 mars 1917, les ouvrières de Pétrograd manifestent dans la rue. En France, entre 1955 et 1956, Madeleine Collin, responsable CGT, dont l'objectif est d'obtenir l'autonomie des syndicalistes par rapport à l'Union des femmes françaises. Donc en deux mots, l'Union des femmes françaises, c'était un comité pas du tout féministe, même clairement antiféministe, mais plus pour pronatalité et qui s'adressait avant tout aux mères, quoi, pour les femmes. En tant que mère et du coup porteuse des futurs enfants de la patrie. Enfin, c'était pas mal le discours. Donc il s'oppose, enfin qui veut obtenir donc une autonomie par rapport à l'UFF. Elle veut inscrire la journée, donc ce fameux 8 mars, dans l'histoire de la lutte des classes. Elle reprend l'historique du 8 mars à partir d'un ouvrage d'une socialiste américaine, Elizabeth Gurley Flynn, qui en 1947 donne comme origine de la célébration une lutte des ouvrières de l'habillement de New York en 1857. L'information est reprise par l'Humanité du 5 mars 1955, en pleine guerre froide. Or, comme l'ont montré Liliane Candel et Françoise Pic, cet événement social n'aurait jamais eu lieu. Mais la légende perdure et l'inscription de l'événement souvenir dans le passé de la lutte de classe, qui plus est américaine, permet de forger une mémoire historique indépendante de toute tradition féministe. Donc,
moi, ce que je trouve intéressant, mais aussi dommage, c'est qu'elle ne va pas plus loin dans comment cette journée-là, du coup, à un moment donné, dans les années 50, c'est devenu plus une journée qui avait rapport à la lutte des classes qu'aux luttes féministes. Mais elle raconte pas comment, après, ça s'est encore transformé en... et je ne sais pas, il y a peut-être eu plusieurs transformations jusqu'à aujourd'hui où c'est la journée de la femme. Et ce qui est intéressant, c'est comment ça suit les politiques aussi, cette évolution de cette journée-là, entre les périodes supernatalistes.
Bah, en fait, c'est même qu'à la même période que les gens... par exemple, dans les années 50, donc depuis 1911, et ben, c'était commémoré quand même comme journée internationale des femmes. Et en 51, c'est décrété journée internationale de la lutte pour la paix et le bonheur des enfants.
Donc, les femmes disparaissent derrière les enfants.
C'est ça, ça veut dire que ça devient... C'est même plus les mères, de toute façon, là, c'est les enfants. Et ou sinon, c'est vu sous un angle, donc plus par les socialistes et les communistes, sous un angle social, mais en fait, qui enlève aussi sa base de... ou quand même, c'était un truc de lutte des femmes pour l'égalité des droits, donc à l'époque où c'était pas mal juste le droit de vote, en fait. Mais en tout cas, ça enlève sa référence historique directement féministe. Et voilà, on peut voir comme, ben même de toute façon, ça, on n'en parle plus trop. Enfin, nous, par exemple, moi, j'avais une vague idée, mais même cet ancrage, il n'est pas tellement expliqué, quoi, et comment ça peut devenir tout et n'importe quoi. Enfin, je me rappelle, je pense l'année dernière, et cette année, c'est pareil, ça peut être les supermarchés qui vont offrir une rose à toutes les femmes qui se rendent dans le magasin, quoi. Donc, voilà.
Pour un petit honneur à tout plein de femmes qui ont fait plein de choses dans l'histoire, une chanson de Juliette, je ne sais plus son titre, mais peu importe, c'est une chanson où elle rend hommage à plein de femmes de l'histoire qui ont fait plein de choses chouettes.
dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore colombe ou rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Billy en ou voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan, pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Labbé, ou Louandre à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne aux métamps psychoses, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loïc Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. Suite les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire, la Yourcenar, Sarah Bernhardt, ou la très sage Simone de Beauvoir, une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or, la Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes-Valmore, les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille, Sylvia Bataille, Anna de Noailles, camarade Alexandra Kollontai, et les agitatrices de bouche brandissant l'espoir et la gouge, Hollande de Bouge, Rosa la Rouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, Lélis, Madame, Donia ou Miss Compariotis, ou les dames Sanchez du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès, et l'empoisonneuse Portia Lucrèce. Enfin,
désolé, le CD saute, tant pis, vous ne pourrez pas écouter la fin de cette chanson, pourtant la fin c'est chouette et tout aussi. Bon, tant pis. Donc c'était Juliette avec une chanson dont on a oublié le titre, et désolé pour le problème technique. Alors, maintenant, on voulait vous parler, on a fait un peu une petite... revue de presse aujourd'hui. Je dis petite parce que j'avais pas non plus envie de me ruiner en achetant des milliards de journaux. Alors j'ai acheté juste Libération et Le Dauphiné Libéré.
Oh, quel bon choix,
n'est-ce pas ? Donc je vais commencer par Libération. Bon, y a pas grand-chose aujourd'hui finalement sur la journée donc des femmes, des luttes des femmes, pardon. Ouh là là. Il y a un article sur le planning familial qui fête ses 50 ans cette année. C'est un article que pas mal. Bon, pour moi, il va pas très loin, mais qui est pas mal quand même. Mais alors, surtout, dans Libération, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est les pubs. Toutes les publicités de Libération aujourd'hui sont pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes, vous êtes les reines de la consommation. C'est à vous que s'adresse la publicité. Et vraiment, c'est magnifique. Alors, Renault chouchoute les femmes. C'est texto, hein. Il y a une parfumerie qui s'engage contre les violences conjugales. Alors aujourd'hui, si vous avez été acheter des produits dans cette parfumerie, à chaque fois que vous achetez un produit, elle verse de l'argent à une fondation contre les violences conjugales. Mais il faut quand même acheter des produits, donc des parfums ou je sais pas quoi, machin. Donc voilà. Donc très très engagement politique très fort pour cette parfumerie-là. Un jour dans l'année. Harley-Davidson, très fort. Harley-Davidson, aujourd'hui, il serait temps de reconsidérer votre place. Aujourd'hui, les femmes, vous avez le droit de rouler en moto. Et aujourd'hui, vous pouvez essayer gratuitement des motos. Bon, ça, je vous dis tout ça, c'est le soir, vous ne pouvez plus. Ça y est, c'est fini. Vous ne pouvez plus faire de moto. C'est trop tard, c'était juste aujourd'hui. Non, mais c'est vraiment ridicule, je trouve. Et alors, pour moi, la palme revient à Total. Ou Elf, je ne sais plus.
Non, Total.
C'est Total. Total, qui aujourd'hui est très fier. Total, un grand groupe humain, n'est-ce pas, on le sait, qui aujourd'hui est très fier de se vanter que 6% de ses cadres dirigeants sont des femmes. Bravo Total, 6% des cadres dirigeants. Et donc évidemment, Total promet qu'à partir de maintenant, il va faire mieux. Mais alors bon, je trouve ça d'une ironie.
Non mais leur slogan, c'est quand même la journée de la femme, 365 jours par an chez Total, nous nous y employons quoi. C'est vrai que Total est connu pour son combat féministe.
Tout à fait, notamment envers les populations qu'il a décimées. Je pense, parmi ces populations, devient un certain nombre de femmes, beaucoup plus que 6%, je pense même. Mais bon, bref, moi, ça m'a plutôt mise en colère de voir cette publicité-là, que je trouve vraiment le comble du cynisme, je ne sais pas comment on dit, marchand. Mais alors, bon, les meilleurs, c'est une compagnie d'assurance. Bon, je vais arrêter de faire la pub pour les trucs, du coup, je ne vais pas la citer. Mais alors, elle a dû acheter, je crois, les trois quarts des pages de publicité dans Libé aujourd'hui. Et alors, donc, c'est après les assureurs militants, les assureurs féministes, avec des phrases. Alors, donc, dans le journal, il y a régulièrement une petite pub pour cette assurance-là, avec des phrases aussi belles que « Désolé, la supériorité de l'homme sur la femme existe, il suffit de comparer leur retraite ». Ou alors « Attention, votre fameuse intuition féminine ne vous dit pas tout sur votre retraite ». Celle-là, je l'aime bien. Ou alors, il y a un droit dont toutes les femmes devraient pouvoir disposer un jour, le droit de se reposer. Merci, merci de nous donner le droit de nous reposer. Donc,
c'est ça, quand elles auront 60 ans et qu'elles seront à la retraite.
Oui, c'est ça, parce qu'il y en a une autre qui dit « Vous luttez pour être une femme indépendante jusqu'à 60 ans seulement. » Et oui, pensez à votre retraite et grâce à cette compagnie d'assurance, ils vont s'occuper de votre retraite. Et alors vraiment, ça utilise toute cette esthétique, c'est la grande mode des pubs maintenant, de la publicité, d'utiliser l'esthétique militante et le vocabulaire militant. Voilà, on voit des affiches comme si elles étaient collées dans la rue et tout. Donc vraiment, moi, je trouve ça insupportable, cette
récupération. C'est la récupération jusqu'au bout. Quoi.
Voilà, je trouve ça assez
Comment
insupportable.
Comment se faire de la thune sur les luttes des femmes.
Voilà, donc bon, bah, Libé, c'est surtout la pub qui parle des femmes aujourd'hui. Alors hein, voilà, la journée de la femme consommatrice. Et dans Le Dauphiné Libéré, donc notre quotidien préféré, notre journal local qui nous ressemble tant... Donc, dans le Dauphiné, aujourd'hui, il y a un super article. Vraiment, un article d'une rare qualité féministe et vraiment fouillé et intelligent. En ce 8 mars, ça fait plaisir. Donc, le titre, c'est « Filles contre garçons, le match ». Alors, c'est super, on est content. Il y a une photo avec un petit garçon et une petite fille qui jouent au bras de fer en souriant. Et le sous-titre de la photo, c'est « Les garçons sont certes plus forts physiquement, mais les filles sont meilleures à l'école ».
Oh, l'angoisse.
Alors, bon, vraiment, je vous passe le contenu. Enfin, si, le contenu de l'article, c'est en gros « Les filles sont... » Alors, du coup, c'est tout un article qui est construit sur le match. Alors, les filles sont un peu meilleures à l'école, les études le prouvent, mais le sport intéresse davantage les garçons. Ça ne questionne pas du tout pourquoi C'est comme ça, hein. C'est normal, c'est, voilà, c'est comme ça, les filles sont meilleures à l'école, les garçons sont meilleurs au sport, on se demande pas pourquoi, ça vient de la création divine, on sait pas. Mais alors bon, les jeux vidéo, tout le monde y joue, les garçons et les filles, mais il n'y a pas les mêmes goûts, les goûts sont différents. Et ce que je préfère, c'est la conclusion. La conclusion, c'est pas de vainqueur. Finalement, nous n'avons pas pu déclarer de vainqueur dans ce match, filles contre garçons. Il y a juste des différences et des préférences. Et en plus, c'est mieux comme ça.
Ah, on s'étonne, hein. La palme du réac pour le 2B, vraiment, c'est surprenant, quoi.
Et vraiment, je trouve un article pareil en un 8 mars, ça me donne envie de dire, mais non, mais en fait, oubliez le 8 mars, arrêtez de vouloir parler des femmes, arrêtez de vouloir parler du sexisme, vous, c'est encore plus sexiste que si vous vouliez pas en parler. C'est vraiment, je me dis, voilà, moi, si le 8 mars, ça sert à lire des articles aussi sexistes et aussi nuls que ça, vraiment, alors après, il y a un faux débat sur la mixité à l'école, mais c'est même pas un débat, je veux dire, c'est, ça sert à rien du tout, ça amène à rien, enfin... Vraiment, je trouve des articles pareils, ça craint. Ça pue. Et donc, aussi, dans le... dans Libération, il y a un super truc aussi sur les politiques qui, donc, aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, se précipitent pour dire combien la cause des femmes leur est importante et sensible. Et vraiment, c'est quelque chose qui est important pour eux et ils ne l'oublient pas. Et alors, donc, par exemple, l'UMP. Donc, grâce à une mention spéciale, vraiment, ce soir, une mention spéciale à Nicolas Sarkozy, qui s'improvise pro-féministe et qui essaye d'expliquer pourquoi l'UMP est un des partis les plus sous-représentés par des femmes. Donc, je crois que par rapport aux autres partis, ouais, c'est celui où il y a le moins de femmes. Et donc, il explique ça à cause de, je cite, « la double, voire triple journée des femmes qui, toutes, ne peuvent pas en plus militer sur le terrain et dans les partis politiques ». Alors merci, merci de ne pas vouloir surcharger les femmes. Le travail et la maison, c'est déjà beaucoup. On va pas en plus faire de la politique, hein.
C'est ça, ça lui est pas venu à l'idée qu'il avait qu'à, lui et ses potes, torcher les gosses et faire le ménage, hein. Ça soulagerait les femmes, ou envisager, je sais pas, un petit temps partiel, par exemple.
Mais vraiment, je trouve que c'est terrible, quoi, parce que là, je veux dire, c'est pas possible d'être pas cynique quand on dit un truc pareil. Enfin, oui, les femmes ont des journées terribles, des doubles journées, les femmes qui travaillent et qui ont en plus une famille à charge et qui doivent se taper le ménage, les enfants, plus leur travail. Enfin, oui, ça fait des doubles journées. Et oui, c'est aussi pour ça que c'est vrai que les femmes s'engagent moins dans la politique. Mais c'est pas... Enfin, dire ça comme un constat inchangeable...
Ah, mais là, c'est vraiment le truc pour, pris aujourd'hui, à l'envers, quoi.
Donc voilà, je crois que je me suis dit aujourd'hui, eh ben, j'aurais préféré qu'ils n'en parlent pas, ça m'aurait fait moins de pollution dans mes oreilles et dans mes yeux.
Eh ben on va... Après, c'est réjouissante chronique donc, des médias. On va écouter un morceau de Gwyn & Bee, donc un groupe toulousain. Dont vous pouvez trouver, elle par exemple, dans une compile transpédéguine qui s'appelle Clac. Et voilà, d'un fanzine de Toulouse.
Donc c'est un groupe issu de la scène Do It Yourself Total. Voilà.
Voilà, et qui porte bien leur nom, Gwyn & Bee.
We'll be right back.
Vous écoutiez 50% un morceau des Gounenbi sur Dégenré, l'émission féministe sur le 97 FM. Avant ce morceau, on parlait un peu de qu'est-ce qui pouvait se faire de pire comme récupération politique, capitaliste du 8 mars, mais c'est quand même aussi l'occasion d'initiatives féministes intéressantes cette semaine. Et donc là, on avait envie de vous lire un tract d'un groupe féministe de Paris, les Furieuses Fallopes, qui nous semble bien résumer des trucs, des revendications féministes de base et aussi le 8 mars, qu'est-ce que ça donne ?
8 mars, journée de la bonne conscience patriarcale. Nous sommes un groupe militant qui nous réunissons dans une non-mixité de féministes radicales. Nous nous inscrivons dans le courant féministe matérialiste. Nous partons du principe que chaque individu est le fruit d'une éducation, d'une construction sociale et qu'il n'y a pas de déterminisme. On ne naît pas femme, on le devient, Simone de Beauvoir. L'injonction au genre féminin et au genre masculin nous enferme dans des carcans sur la base arbitraire du sexe biologique. Nous considérons que si tout est construit, tout peut être déconstruit. Nous tentons par conséquent d'imaginer comment les individus pourraient se construire différemment, sans cette bicatégorisation, sans hiérarchie.
Nous tentons de croiser les grilles d'analyse des différentes oppressions subies par les groupes d'individus. Les mécanismes de discrimination fonctionnent avec les mêmes ressorts et participent d'un même système. Notre féminisme radical nous fait envisager les rapports hommes-femmes comme métaphore de tous les rapports d'oppression humaine. Les dominants créent des hiérarchies entre les dominés, au sein même des groupes, mais aussi d'un groupe à l'autre. Nous divisent, nous mettent en concurrence, montrent le modèle d'intégration, les stratégies de réussite sociale à suivre. Discrimination positive, parité. Quoi de mieux pour surveiller les classes menaçantes que de les intégrer, les digérer ?
Face aux inégalités sociales, la précarité, le secteur dans lequel on est sûr de trouver un emploi en ce moment, c'est l'industrie de la répression. C'est l'intégration via le tout sécuritaire. Femmes flics, matones, contrôleuses, vigiles. Défendre les intérêts des dominants pour avoir l'illusion d'en être. Autre exemple, aux États-Unis, le plus sûr moyen d'obtenir une green card, et donc le droit de séjour et un emploi précaire, c'est en s'engageant dans l'armée. On vous envoie au casse-pipe les populations pauvres et immigrées pour les croisades WASP, c'est-à-dire les protestants blancs anglo-saxons.
Le fait que Laurence Parisot soit l'actuelle patronne des patrons, la dirigeante du MEDEF, ne doit pas nous faire oublier qu'en France et dans le monde, la majorité des précaires, des sans-emploi et des travailleuses dites informelles, non rémunérées, sont des femmes.
On prétend une prise en compte des femmes et des minorités en général en politique via la parité, les quotas et la discrimination positive. En France, le débat s'est focalisé sur la possible candidature de Ségolène Royal comme si l'émancipation de toutes passait par l'accès au pouvoir d'une. Depuis l'élection de Michelle Bachelet, actuelle présidente social-démocrate du Chili, rien n'a avancé en ce qui concerne l'urgence de la dépénalisation de l'avortement.
Pour aller plus loin, des Condoleezza Rice, secrétaire d'État des États-Unis, Angela Merkel, chancelière allemande, ou autre Anna Zaborska, présidente de la Commission européenne des droits de la femme et de l'égalité des genres, opposée à l'IVG et pour l'internement des homosexuels, servent clairement les intérêts des dominants. Nous ne revendiquons donc pas de femmes à des postes de pouvoir, pas plus que dans les instances religieuses, ni une relecture féministe des textes révélés. Les religions sont des instruments de domination hétéropatriarcale.
Nous critiquons les institutions et le principe de hiérarchisation. L'émancipation ne passe pas par le fait d'occuper des postes de pouvoir dans la société hétéropatriarcapitaliste, ni par un système de quotas, de droit à la différence, ni par la réussite individuelle. Le droit à la différence, outre le fait d'entériner l'idée de norme, être différente du référent, nous empêche de voir les oppressions communes que nous subissons, nos appartenances à des classes opprimées, non hommes, non riches, non blancs, donc de nous organiser. L'illusion de la réussite individuelle nous empêche d'envisager un changement collectif et global par la mise en place de solidarité entre opprimés.
C'est pourquoi nous nous retrouvons dans les luttes anticapitalistes contre le sexisme, le racisme, la lesbo-homophobie, la transphobie, discrimination envers les personnes transsexuelles, transgenres, intersexuées, en règle générale, dont le genre est mal défini. Les luttes contre le validisme, qui est le fait de discriminer les personnes en les catégorisant dans des catégories comme fou, folle, handicapée. L'agisme, domination des adultes sur les enfants d'une part et culte de la jeunesse. Impossible d'être exhaustive. Nous estimons que les luttes ne peuvent se substituer les unes aux autres. Elles se complètent, se rejoignent et s'enrichissent. Les hiérarchiser, considérer qu'il y a des luttes émancipatrices prioritaires et d'autres secondaires, c'est les diviser et être complices de ce système.
Nous refusons d'utiliser les modèles et les outils que les dominants nous imposent en prétendant pouvoir nous libérer dans ce système. Nous utilisons la non-mixité comme moyen politique de lutte, d'abord parce que nous sommes plus à même de définir, d'identifier, de dénoncer, etc., les violences et les injustices auxquelles nous sommes confrontés, oppression dans le travail, dans la rue, dans la sphère privée, dans les milieux militants, contrainte à l'hétérosexualité, injonction au genre féminin, psychiatrisation, etc.
Il est nécessaire que les luttes féministes s'organisent de manière autonome pour que cette émancipation soit nôtre, que nous en soyons les forces motrices et non matrices, et les actrices. La non-mixité n'est pas une fin en soi, mais un outil politique de lutte. Nous mettons en place un espace politique au sein duquel nous tentons de remettre en question des pratiques militantes souvent autoritaires, ainsi que nos pratiques quotidiennes, individuelles comme collectives. Il est important de politiser nos vécus. Le privé est politique.
Notre mode de fonctionnement repose sur des principes d'autogestion, autant dans l'action que dans la réflexion, ce qui nous permet de mettre en place des réelles discussions, des débats déconstructifs, sans joute oratoire, sans comportement dirigiste, sans avoir à séduire pour se faire écouter. Toutes les décisions sont prises collectivement, ce qui permet à chacune de s'investir pleinement, de se responsabiliser et de pouvoir se réapproprier les clés des débats. Échanger, élaborer, expérimenter sans chef, c'est une manière de se souder, de définir ensemble nos modes d'action et nos revendications. Nous tendons à sortir de l'hétérosocialité en apprenant à nous considérer en alliés et non plus en concurrentes, éduquées pour répondre à la demande d'un marché dont les hommes sont les clients et les patrons. Ce que nous expérimentons et construisons dans nos militantismes et dans nos vies, c'est le début de nos utopies et de notre projet de société égalitaire. Révolution féministe radicale.
Avec tous nos amis. Bien sûr, nous allons peut-être aller au zoo avec Ken et Skipper. Nous devrions marcher dans la forêt avec les copines. Nous aimerions dessiner avec nos amis. Tu pourrais nous réunir avec Skipper. Faire du shopping avec Alexia. Tu pourrais jouer du piano avec Teresa. D'accord, j'aimerais bien chanter avec les nièces. Génial! Tu peux jouer du piano avec les copines. D'accord, nous devrions organiser une fête avec nos amis. Oh oui! Tu peux faire un défilé de mode avec Ken et Alexia. Nous aimerions aller au cinéma avec Ken et Marina. Nous allons peut-être aller à un concert avec les copines. Super! Bien sûr, ouais, j'aimerais aimerait bien aller. Oh oui, nous pourrions, nous devrions. Ouais.
Nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu. Il n'y en a plus. Bon. De toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétéroflics, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait. Et qui nous feront encore. Et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. La seule position politique. La seule position politique possible est une position révolutionnaire. La seule position politique possible est une position révolutionnaire. La seule position politique possible est une position.
C'était un mix de Nutella Del Rio et Politoxica avec, enfin, là, ce que vous entendiez, c'est un extrait. De ce que disait une militante, une activiste du FAR, pendant une réunion du FAR. Le FAR, c'était le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. C'était un groupe de PD et de Gouin radical dans les années 70. Voilà. Et du coup, en enchaînant, là, du coup, il se passe pas mal de trucs en ce moment. Donc, on disait par rapport au 8 mars, et notamment, il se passe des choses à Lyon assez intéressantes. Et déjà, bon, on vous le dit un peu au dernier moment, mais vous avez encore le temps de courir jusqu'à Lyon, si vous voulez. Ce soir, à 21h, place des terreaux, de la place des terreaux à Bellecour, il y a une manifestation de nuit, qui est une manifestation mixte, qui est organisée, enfin en tout cas l'appel à manifestation est du collectif Droits des Femmes 69. Donc voilà, c'est ce soir à 21h. Et donc elles expliquent qu'elles veulent reprendre la rue comme espace public pour dénoncer les oppressions subies par les femmes dans la sphère publique. Elles parlent de l'hétéropatriarcat, des rapports sociaux de sexe dans leur tract. Elles disent qu'il est urgent de construire une société où le sexe biologique ne conditionne plus un rôle prédéterminé, une place sociale. Enfin bon, voilà, leur tract, ils parlent aussi de l'éducation, du domaine public, de la politique. Elles rappellent des chiffres sur les femmes et le travail, en rappelant que les femmes représentent 54% des chômeuses, alors qu'elles ne représentent que 46% des actifs, que 17% des femmes salariées ont un contrat précaire, contre seulement 14% pour les hommes. Plus de la moitié des salariés en contrat précaire sont des femmes, près de 60% des salariés en CDD ou en emploi aidé, et 83% des salariés à temps partiel, 77% des bas salaires sont des femmes. Voilà, et 30% des femmes travaillent à temps partiel au lieu de 5% des hommes. Et elle parle aussi de la violence au quotidien, des 18 000 viols par an. Alors là, ça me fait penser quand même qu'il faut faire attention aux chiffres. Elle ne précise pas, mais c'est 18 000 viols déclarés, ce qui veut dire qu'il y en a certainement beaucoup plus. Il faut faire attention avec les chiffres en général quand même. Surtout, je ne sais pas d'où elle le tire. Voilà, mais elle parle d'une femme sur 10 qui est victime de violences conjugales, 72 qui meurent chaque année de violences conjugales, 13% des femmes qui subissent des agressions verbales dans l'espace public. Alors ça, ce chiffre-là est hallucinant.
Parce que je pense que c'est 100%, quoi.
Oui, voilà, enfin, ça dépend ce qu'on définit comme agression dans l'espace public.
Mais là, c'est agression verbale en plus, donc...
Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est plus, hein. Bon, voilà, elles disent des chiffres comme ça et elles finissent en disant « Tant que l'oppression des femmes persistera, tant que nos acquis seront menacés, tant que l'égalité des femmes et des hommes ne sera pas effective, le 8 mars restera un jour important pour les femmes parmi les 364 autres jours de lutte. » Voilà, c'est ce soir, le rendez-vous, donc, c'est à 21h, place des terreaux, voilà, pour une manifestation de nuit mixte.
Ouais, ce que je trouve aussi un peu dommage, même si, enfin, je pense qu'il peut y avoir d'intérêt des fois à faire des manifestations mixtes, mais je trouve qu'une manif de nuit, et ben, ça perd un peu de son sens parce que aussi autour des 8 mars, j'ai l'impression qu'il y a vachement une culture, mais qui s'est perdue aussi de, enfin, ou qui peut se passer dans certaines villes, quoi, de faire des manifs de nuit non mixtes. Je sais qu'on avait fait une à Grenoble, mais ça fait au moins il y a 3 ans. Et là, c'est vrai, c'est con, on n'en a pas refait cette année. Et où il y a quand même vachement toute une... toute une teneur politique de reprendre la rue la nuit, parce que c'est un espace qui est pas du tout possible pour les femmes, quoi. On dit genre de pas sortir seule, pas après telle heure, pas à tel endroit, pas habillée de telle manière, etc. Et de faire des manifs de nuit non mixtes, ça a un réel sens, quoi.
Mais d'ailleurs, ce soir à Paris, il y a une manif de nuit non mixte, donc organisée par les Furious Fallop, dont on vous lisait le tract tout de suite.
Oui, j'ai entendu à Toulouse aussi, je pense, dans différentes villes, va y en avoir. Et sinon, on ne voulait pas vous parler, et ben, toujours à Lyon, ce week-end, de l'organisation d'un week-end féminisme, genre et sexualité. Donc, qui est organisé par le collectif Jean Rage Crew, un collectif femmes transpédéguines. Et donc, il y a différents trucs qui vont se passer, dont aussi une manif de nuit, mais cette fois-là qui sera plus une manif donc femmes et transpédéguines. Et ben peut-être j'ai qu'à vous lire... l'appel à cette manifestation.
On aime bien vous lire des tracts.
C'est ça. On se fait traiter de grosses salopes, de travelots, de gouinasses, de mal baisées, de tapettes, sales poufs, tafioles, chaudasses, gros tons, espèces de frustrés, garçons manqués, petites putes, pisseuses, sales pédées, coincées du cul. On nous dit... Va te faire enculer, suce ma bite, je vais te serrer dans un coin, de toute façon t'es moche, t'as un gros cul. On se fait siffler, lourdement draguer, agresser, tripoter, klaxonner, violer, tabasser, insulter, soulever la jupe et même brûler vive. En effet on est belle, en effet on est beau, en effet on est petite, en effet on est gros, en effet on a des gros seins, en effet on a une petite bite, en effet on a des poils, en effet on aime les femmes, les hommes, les deux. En effet, on est des filles à gros blousons et cheveux courts. En effet, on aime la sodomie. En effet, on est des prostituées. En effet, on est des hommes qui mettent des jeans moulants. En effet, on n'a pas toujours envie de baiser. En effet, on aime le sexe. En effet, on est des hommes qui portent des jupes, des perruques et du rouge à lèvres. Parce qu'on est tous là à la fois, parce qu'on veut pouvoir l'être à midi comme à minuit, à Bellecour, rue Sainte-Catherine comme à la Tête d'Or, dans les bars, sur les trottoirs, en boîte et dans la rue, parce qu'on refuse ces normes. Parce qu'on refuse ces violences, parce qu'on veut exister selon nos désirs, on se rassemble pour l'affirmer, pour en parler, pour agir et pour que ça change. Plus de répression n'est pas la solution, transformons nos représentations, attaquons-nous aux oppressions. En tout genre, existons dans l'espace public. Donc voilà.
Donc c'est une manifestation qui, le rendez-vous, c'est vendredi, ce vendredi, la 10 mars, à 21h, place des Terreaux. Ah, le jeu de mots que vous pouvez pas, pardon.
Oui, donc, parce que c'est la place d'hétéro à Lyon, ce qui donne place d'hétéro, parce que effectivement, c'est une place comme partout dans l'espace public qui est hétérosexuelle.
Donc vendredi 10 mars à 21h. Et le week-end se poursuit samedi avec un concert et un cabaret. Ce sera à la Syrie, qui est, je crois, un squat. Hein,
tout à fait.
D'activité.
Menacé d'expulsion, comme c'est original.
Oui, donc c'est un squat qui est à Villeurbanne, 4 rue Pascal, vers le Totem, pour celles qui connaissent. Métro République, bus 1, pour celles qui connaissent. Et donc, c'est dans le cadre du week-end féminisme, genre et sexualité. Le concert, c'est Dandy Freaks, qui est de l'électropunk de Saint-Étienne, je crois, hein. Et CTB, donc un groupe anarcha-punk de Saint-Étienne aussi. Et avec ensuite un cabaret Suck My Sock, ça veut dire suce ma chaussette. Et c'est un cabaret où tout le monde peut participer, enfin tout le monde. Il y avait aussi un appel à contribution si on avait envie de faire sa petite performance, je sais pas quoi. Et je crois que les inscriptions c'était jusqu'à vendredi soir. Voilà. Et le week-end se poursuit encore le dimanche avec des projections. Et ces projections se passent à Keep Smiling. Keep Smiling, c'est deux rues d'Arménie vers le métro Saxe-Gambetta. Et donc des projections toute la journée le dimanche à partir de 14h avec des débats. Donc bon, en gros, je peux quand même vous dire vite fait ce qui passe. Stonewall, donc un film sur la révolte de Stonewall. L'épisode 1 de la saison 1 de The L Word, pour celles qui ne l'ont pas encore vu. Virgin Machine, Mango Kiss, Venus Boys, un docu sur des drag kings à New York. Chronique féministe, un documentaire sur les actions féministes, mouvements féministes à Lyon entre 97 et 98. Plus un documentaire sur le phare, le front homosexuel d'action révolutionnaire dont on parlait tout à l'heure. Le clitoris, ce cher inconnu, qui est un documentaire sur le clitoris. Et un film qui s'appelle XX to XY, qui est donc un film sur un transsexuel F2M, donc ça veut dire fille vers garçon, qui raconte sa vie, voilà. Et encore plus des petits trucs en plus, des extraits de courts-métrages, voilà. Et donc, c'est toute la journée de dimanche, donc ça fait beaucoup de films. Hein. Je crois qu'il y en a en parallèle, il y a des projections, il faut choisir, et c'est dimanche.
Oui, il y a une salle avec plus des fictions, une salle plus avec des documentaires.
C'est ça. Et donc, c'est dimanche, là, 12 mars, à partir de 14h, à Keep Smiling, 2 rue d'Arménie, vers le métro Saxe-Gambetta.
Et ce n'est pas fini parce que le soir, donc je crois c'est un peu en guest star au dernier moment, il y a, je pense au squat de la Syrie, je crois à partir de 21h, si je ne me trompe pas, un one man show de...
One freak show.
Oui, One Freak Show, tout à fait, de Lynn Breedlove, donc, qui est la chanteuse du groupe Tribate, un groupe de gwyn queer américain, pour celles qui connaissent. Je pense qu'on en a déjà passé des morceaux dans les émissions dégenrées, et d'ailleurs, on va en repasser un aussi...
Dans pas très longtemps.
Dans pas très longtemps, c'est ça. Et que dire de plus ? Eh ben, je sais pas, nous on l'a vu à donc sa représentation
à Toulouse. Faut bien se placer parce que vu qu'elle parle en américain, il y a des sous-titres qui sont vidéo projetés sur le mur et moi je les voyais pas, alors j'ai pas compris. Non, c'est pas vrai.
J'étais bien placée du coup. Non, c'est assez drôle et c'est on va dire une sorte de j'ai pas de spectacle par rapport aux questions de genre voilà, je sais pas exactement quoi dire de plus, mais en tout cas ça vaut le coup d'être vu. Et voilà, et Tribate en général, c'est un groupe qui a quand même des textes hyper engagés sur différentes en fait luttes des classes, c'est ça que je trouve intéressant, où il y a à la fois une réflexion sur des revendications gwyn, sur la lesbophobie, mais aussi sur le racisme, la lutte des classes en général, le viol, le genre, les trans, enfin le SM, enfin plein de trucs différents. En tout cas, bon, si vous avez l'occasion d'écouter leur CD et que en plus vous comprenez l'anglais, c'est encore mieux. C'est vraiment bien.
Mais d'ailleurs, il y a un documentaire aussi qui existe qui est intéressant sur ce groupe parce qu'elles étaient aussi, elles sont aussi connues pour leurs concerts assez provoques elles faisaient pas mal nimpes sur scène et puis. Et notamment, elle faisait des trucs assez provoques et tout. Et il y a un documentaire qui retrace un peu, enfin, qui les montre en concert avec des interviews d'elles où elles expliquent leur démarche, qui n'était pas que n'importe quoi, en fait, malgré ce qu'on peut croire quand on le voit. Parce qu'il y avait vraiment une réflexion à côté de ça sur aussi la place des femmes ou des gouines ou des trans sur les scènes musicales. Mais oui.
Ouais, et ben, du coup, pour vous donner envie d'aller à ces concerts à Lyon. On va vous passer en les enchaînant un morceau de Tribate qui s'appelle Castration Song. Et
avec ton accent, ce qui est bien, c'est qu'on comprend.
C'est ça, merci. Ouais.
Et une chanson de CTB.
Rock'n'Roll Witches, voilà, bonne écoute. Stand. Vous êtes toujours sur Dégenré sur Radio Kaleidoscope. Et après ces morceaux de CTB, on va maintenant écouter un morceau de Colette Mani qui s'appelle La Sorcière et qui est un peu comme un cri féministe. Mon bocal, il est trop petit, hurle-t-elle.
Nous sommes en amour avec une sorcière vêtue de cuir de peau de daim grattée, la gueule en papier de verre, sein de soie teintée, cuir sans béton, tête de plomb, cœur. Sexe d'amiante. Des cornichons, des candélabres sur les clairs ou blancs, des képis et vêtements de gendarmes, un voilier perdu dans les parcs à huîtres, au grenier. Capuchon cuit, vieilles chaussures, terre cirée aux cuites, vieille serpillère, corde armée. La sorcière est toujours là. Mon bocal est trop petit, hurle-t-elle. Mon bocal, il est trop petit, hurle-t-elle.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Et donc ce soir, pour notre émission, maintenant c'est le moment de la chronique littéraire.
C'est ça, et donc ce soir c'est sur La Servante écarlate, un livre de Margaret Atwood qu'on pourrait un peu présenter comme de la science-fiction, mais c'est plus
Roman d'anticipation.
Oui, voilà, c'est exactement le terme que je cherchais. Merci, Marina. Un roman d'anticipation. On va dire un peu à la 1984 d'Orson Welles, c'est-à-dire que c'est plutôt je bug, vous comprenez, c'est le 8 mars, toutes ces émotions. donc, pourquoi cette comparaison? Oui, parce que c'est, on va dire, une sorte d'utopie négative, enfin une anticipation d'une société encore plus fascisante et réactionnaire qu'elle ne l'est déjà, totalitaire, qu'elle ne l'est déjà actuellement. Mais dans une perspective féministe, en fait. Et j'ai qu'à vous dire quelques mots juste sur Margaret Atwood pour vous, enfin, vous donner un peu une idée pour cibler le livre, quoi. Donc, c'est une romancière canadienne née en 1939. Non, Marina rigole, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal, mais on va se reprendre. Et qui a écrit différents bouquins, et où entre autres, elle a un souci pour... les thèmes qu'elle aborde, c'est l'écologie, en général c'est quand même pas mal sa vision du monde, et entre autres, le combat, des combats féministes. Mais j'ai pas lu d'autres livres d'elle, quoi. Et celui-là, un peu pour vous expliquer le concept, ça se passe, dans les années 2000. Et c'est devenu une société qui est encore plus clairement patriarcale qu'elle l'est actuellement. Et qui est totalitaire avec tout le monde, mais particulièrement au niveau des femmes, où il y a différentes castes. Très cloisonné, et où en fait c'est une république qui se fonde sur un coup d'État et qui est fondée par des fanatiques religieux, et qui s'appelle donc la République de Gilead. Et le principal problème de cette époque, c'est la dénatalité, et différentes catastrophes nucléaires, déchets toxiques divers, etc. Plein d'hommes, de femmes sont stériles, ce qui leur pose un problème, alors que ça serait pas obligatoirement un problème, mais bon, les fanatiques religieux, ça leur pose problème. Et la solution qu'ils trouvent pour parer à ça, c'est en fait d'organiser encore mieux le patriarcat pour que les enfants ne soient vraiment pas aux mains des femmes, et encore plus en fait contrôler la fécondité qu'elle l'est déjà. Donc en fait, les différentes castes, c'est un peu... Il y a les hommes puissants qui sont appelés les commandants, qui sont entre autres... soit des politiciens, soit des religieux, soit des généraux, soit des grands capitalistes, chefs d'entreprise, etc. Et qui ont des femmes qui sont les épouses, quoi. Ça, c'est une des castes qui sont en gros des filles de haut rang aussi, et qui sont là un peu pour, comme les mariages de richesse, quoi, pour l'apport de la richesse, du nom, le prestige, etc. Et qui en général, elles ne peuvent, si elles ne peuvent pas avoir d'enfants, sachant qu'aussi c'est considéré que si par exemple un couple n'a pas d'enfants, ça ne peut pas être de la faute de l'homme, ça c'est pas possible, c'est en gros un truc, une sorte de blasphème, quoi, de dire ça, donc c'est obligatoirement de la faute des femmes. Donc si les épouses ne peuvent pas elles-mêmes avoir des enfants, les mecs riches ont la possibilité de prendre ce qui s'appelle la caste des servantes, où en gros c'est des femmes qui ont déjà eu des enfants, donc dont on peut s'imaginer qu'elles sont fécondes, c'est ça. Et donc on leur a retiré leur premier enfant, et en fait ils servent au début de la fondation de cette république, c'est toutes les femmes qui ont eu des enfants en dehors du mariage, ou même avec des hommes divorcés, etc., où c'est considéré religieusement pas comme un vrai mariage. Donc voilà, elles entrent dans la caste des servantes. Et leur but, elles, c'est juste de servir de matrice. Alors elles ont rien le droit de faire, elles n'ont pas la possibilité de sortir, elles sont aussi... Enfin, c'est organisé aussi pour le contrôle, qu'elles portent toutes un seul costume, etc. Enfin, leur rôle est hyper restreint. Et elles, c'est juste, en gros, deux baisers, mais selon des rituels hyper précis, où il ne doit pas y avoir de plaisir. Elles, leur but pour le mec, c'est de baiser juste pour avoir des gosses. Donc, il y a des rituels mis en place avec l'épouse qui est présente. Et voilà, elles mettront au monde les enfants qui ensuite seront élevés par le couple. Elles iront en fait travailler ailleurs, quoi, pour être une nouvelle matrice, un nouveau ventre ailleurs. Et sinon, eh ben, y a quand même des prostituées, même si officiellement c'est pas autorisé. Il y a quand même, pour les hommes riches, toujours, ils s'arrangent pour qu'il y ait quand même une sorte de caste enfermée qui, elles, par contre, sont rendues, qui sont stérilisées et qui sont là donc juste pour le plaisir sexuel des hommes. Sinon, eh ben, y a les femmes comme travailleuses, cuisinières pour le ménage, etc. Et ce qui est assez intéressant dans le truc, c'est que sinon, il y a les femmes pauvres. Et les femmes pauvres, en fait, elles, leur particularité, c'est qu'elles remplissent toutes les tâches. En fait, c'est un peu comme maintenant. C'est-à-dire qu'elles font et les tâches domestiques, et elles servent pour avoir des gosses, et pour le plaisir sexuel du mec. Voilà. Donc, ils sont appelés les éconofemmes. Et dans ce roman, eh ben, on va suivre, c'est le journal qu'on imagine avoir été retrouvé plus tard d'une femme qui appartient à la caste des servantes, et qui raconte son histoire. Et ce qui est intéressant, ça montre aussi comme, à la fois tout dans cette société est fait pour qu'il n'y ait pas de révolte possible. Et ça, eh ben, ça s'appuie sur la division entre les femmes. C'est qu'on va donner des privilèges à certaines, comme les épouses ou d'autres qui sont un peu comme des sortes de bonnes sœurs, on va dire, et qui éduquent les filles à être de bonnes reproductrices. Et qu'en fait, ça fait qu'elles se jalousent toutes entre elles, enfin entre les différentes castes, etc. Que c'est quasiment, elles ne peuvent pas nouer d'amitié ni quoi que ce soit, donc il n'y a pas vraiment de révolte possible. Mais en même temps, ça montre, ce qui est le côté pas complètement désespéré du bouquin, que y a toujours des trucs souterrains de révolte, même à tout régime, enfin qu'on peut imaginer quand même que dans tout régime totalitaire, il y aura toujours des gens qui se révolteront. Voilà.
Donc ce livre s'appelle La Servante écarlate de Margaret Atwood et vous pouvez le trouver par exemple aux éditions Robert Laffont. Et c'est vrai que c'est un super livre. Voilà. Moi ça me donne envie de lire d'autres livres de Margaret Atwood.
Voilà, qui est à la fois bien écrit et dans un truc dont on se laisse entraîner, mais avec plein de réflexions politiques intéressantes.
Alors on va faire une petite pause musicale avec un morceau surprise.
Alors, on écoutait le morceau The Game Is Not Over de Miss Kittin, je crois. J'ai une sorte de flou là, ou de Chicks and Spin, je ne me rappelle plus, désolée. Et donc sur dégenré, et on voulait vous rappeler que c'est possible de nous écrire soit ben, pour nous dire ce que vous pensez des émissions, ou aussi nous demander plus d'infos, je sais pas, rappeler des références musicales, de livres, enfin ce que vous voulez. Donc c'est possible sur notre boîte email, donc c'est dégenré avec deux e @boom.org. Ou alors, si vous n'êtes pas hyper adepte d'Internet, c'est possible de nous écrire à Radio Kalidoscope, donc en précisant pour l'émission dégenrée. Et Radio Kalidoscope, c'est boîte postale 422 38018 Grenoble CEDEX 1.
La suite des infos de ce qui se passe dans la région, cette fois plus à Grenoble, j'annonce pas mal à l'avance, mais je ne sais pas si on aura l'occasion de vous le dire dans la prochaine émission. C'est vendredi 24 mars à 19h30, il y a une soirée publique en non-mixité, sur le thème, donc une soirée organisée par Indie Media, sur le thème féminisme et informatique, donc une discussion entre femmes sur le rapport à l'informatique, aux machines, à la programmation, les difficultés qu'on peut rencontrer... qu'on a pu rencontrer ou qu'on rencontre encore autour de tout ça. Et il y aura peut-être des copines geeks de Paris du collectif Grape Girl espagnol pour partager à manger après. Voilà, et c'est le vendredi 24 mars à 19h30 et c'est au local autogéré. Donc le local autogéré, c'est 7 rue Pierre Dupont à Grenoble. C'est un local où il se passe pas mal de trucs intéressants et notamment aussi des trucs féministes. Et sinon, vendredi, là, ce vendredi, vendredi soir, je pense vers 19h, 20h, je ne sais pas exactement, il y a un concert qui s'annonce être un super concert avec Let Me Die Alone, les Revengers, qui est un groupe de Riot Girl de Grenoble, wouhou, et Robotnica, un super groupe. Voilà, et que je ne sais pas comment définir.
Je dirais d'électropunk disco avec des paroles engagées, antispécistes, féministes, anticapitalistes. Oui, je dis antispécistes pour aller très vite, on va dire, pour le droit des animaux, entre autres à ne pas être mangés.
Voilà, et donc ce groupe Robotnica, accompagné des deux autres,
Robotnishka.
Et Let Me Die Alone et les Revengers, donc c'est au Percy, et donc c'est dans la salle des fêtes du Percy, c'est ça ? Le Percy, c'est un petit village niché au cœur du Trièves, donc c'est sur la route de Sisteron, vous suivez la nationale qui va à Sisteron, et à un moment donné, sur la gauche, il y a un panneau, le Percy, c'est un tout petit village, ça doit être facile à trouver. Voilà, c'est vendredi soir, c'est prix libre, et c'est en soutien à Taenia Solum, qui est une association qui... promeut les musiques, comment ça s'appelle, de licence libre.
Voilà. Voilà, qui sort entre autres des compiles gratuites de petits groupes, etc.
Donc c'est en soutien à cette association-là, vendredi soir. Et du coup, ben, on vous propose d'écouter Robotnishka.
Un morceau qui s'appelle Disco Girls.
Les...
Voilà, alors après ce morceau de Robonichka, on va finir notre émission dégenrée par...
une deuxième chronique littéraire.
Eh oui. Donc, sur le livre « Dirty Weekend » d'Hélène Zahavi. Donc, c'est... si on a eu envie, en fait, de ce livre, c'était entre autres par rapport à cette un peu tradition aussi qu'il peut y avoir du 8 mars, de faire des manifs de nuit de femmes pour reprendre la rue. Parce que ce livre, pour aller vite, en gros, c'est une femme, Bella, qui... je sais pas, une femme classique qui
est victime de harcèlement sexuel et puis d'agression, mais
d'agression diverses et
d'agression diverses et qui décide un jour qu'elle en a marre et voilà, et c'est un livre qui est hyper bien écrit, que je trouve qu'on tient en haleine hyper tout le long et qui est assez violent aussi, mais qui donne, enfin, qui est à la fois violent et à la fois qui donne une espèce de force, je trouve, parce que voilà, ouais. Elle se rebelle et elle se laisse pas faire, quoi.
Voilà, et je voulais préciser que, parce que ça me fait quand même halluciner, que ce bouquin, donc, qui date de 91, eh ben, il est le dernier en date des ouvrages de littérature à avoir fait l'objet d'une demande d'interdiction au Parlement de Londres pour cause d'immoralisme. Alors je trouve ça quand même cinglé, parce que ce qu'ils appellent de l'immoralisme, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui se rebelle et qui décide de buter des violeurs. Et que ce genre de livre soit écrit, eh ben, ça peut faire l'objet de censure quand même en 91. C'est assez fou.
Du coup, peut-être pour finir cette émission, on vous propose de vous lire trois petits extraits qui sont tout au long du livre. Ces extraits, vous pourrez reconnaître que c'est pas les mêmes extraits parce que ça va changer de voix.
Tout à fait. Et ensuite, eh ben, on enchaînera avec un morceau du groupe Le Tigre qui s'appelle On Guard et qui est un peu un morceau pour l'autodéfense féministe en général.
Pour que toutes les femmes apprennent à se défendre. Ce que désire Bella, c'est ce qu'elle ne peut avoir. Ce que désire Bella, ce sont des fenêtres ouvertes les nuits d'été. Des promenades solitaires au bord de l'eau, sans la crainte de la panne sur l'autoroute, sans la peur du noir, sans la peur des bandes, sans réflexion dans les rues, sans attouchement furtif dans le métro, ne plus être obligée de flatter leur ego par peur du coup de poing en pleine figure, du nez cassé et de la morve qui coule dans sa bouche. Bella est née libre et partout elle est enchaînée.
Il ouvrit les yeux, l'aperçut, et gicla comme une baleine. Un réveil très brutal. Il regardait d'un air ébahi la silhouette encapuchonnée près de son lit. L'horreur dans ses yeux. L'horreur qui apparaissait lentement dans ses yeux était un souvenir qu'elle serrerait contre son cœur pendant de nombreuses nuits solitaires. Pour la première fois de sa vie, elle regardait le visage d'un homme et elle y voyait scintiller le reflet de sa propre peur. « Enfin seule, » dit-elle. Tous les trois. Imaginez un peu. Vous vous réveillez et vous la voyez près de votre lit. La femme de vos rêves humides se tient près de votre lit. La femme de vos pensées obscènes, la femme de vos désirs inavouables se tient près de votre lit, avec un marteau. Elle ôte son écharpe pourpre en vous regardant avec un grand sourire. C'est la première fois que vous lui voyez ce sourire. Elle sourit si rarement. Elle a le grand sourire du manant avant qu'il n'embroche le seigneur avec sa fourche. Un grand sourire a brûlé les prisons. Un grand sourire qui indique que la patience a ses limites. Et Timothy, le pauvre Timothy, s'est réveillé pour voir ça. Elle le frappa avec le marteau sur la joue. Un coup oblique, désinvolte, pas trop violent, juste assez pour briser l'os. Elle le frappa de nouveau pour bien lui faire comprendre qu'il ne rêvait plus. Elle le frappa de nouveau pour garder le rythme. Elle le frappa encore une fois pour le plaisir. Même Bella, même la petite et fragile Bella, peut soulever un marteau. Même elle peut le tenir dans ses mains, le brandir bien haut et frapper avec.
Il aurait pu deviner. Il aurait dû savoir. Elle aurait pu lui dire s'il avait demandé. Elle aurait pu lui dire de ne pas prendre cette peine. Elle aurait pu lui dire à haute et intelligible voix. Elle aurait pu lui murmurer à l'oreille « Si vous voyez une femme marcher, si elle rentre tranquillement chez elle, si vous la voyez passer la nuit sans bruit devant vous sur le trottoir, si vous avez envie de briser ses os fragiles, si vous avez envie d'entendre ses supplications désespérées, Si vous avez envie de sentir sa peau rose se contusionner et si vous avez envie de goûter sa peau tendue qui saigne, si, en la voyant, vous avez envie d'elle, réfléchissez. Réfléchissez, ne la touchez pas. Laissez-la poursuivre son chemin. Ne planquez pas votre main sur sa bouche et ne la jetez pas à terre. Car, sans le vouloir, sans réfléchir, vous aurez peut-être posé votre grosse main sur Bella. Or, elle s'est réveillée ce matin et elle s'est aperçue qu'elle n'en pouvait plus. »